Il faut avoir le courage d'aller à la messe le jour du. Le jour du. De la croix glorieuse. Quand le ciel s'est ouvert, et on a vu une multitude impossible à dénombrer. Et voilà, et puis les chevaux de l'Apocalypse, le blanc, le cheval noir, le vert, le cheval rouge, tout ça, tous ces chevaux, sont derrière nous. Et quand s'ouvre le son, on voit des multitudes. Et les multitudes, heureusement, sont traversées par un cheval blanc. Et celui qui est dessus, c'est le Verbe de Dieu. Il a un manteau, sacerdotal, trempé dans le sang. Et sur son côté, son nom est inscrit. Son manteau est trempé dans le sang. Et ce nom qui est écrit, c'est Logos de Théo. De Père, quand on a le Verbe de Dieu. Et tous ceux qui sont avec lui ouvrent tous les espaces du ciel. Au milieu des multitudes, un chemin est tracé. Et ce sont des multitudes de cavaliers qui sont unanimement sur lui. C'est vraiment le temps de la transverbération, quoi, vous voyez, le glaive. Bonjour Saint-Denis. C'est ma joie, la joie du cinquième saut d'Apocalypse. C'est le temps de la transverbération, quoi. Le manteau, c'est dans le sang. À tremper dans le calice du Saint des Saints. Et à ce moment-là, la transverbération ouvre les champs de bataille de la victoire. Et là, il n'y a plus de cheval noir, il n'y a plus de cheval vert, plus de cheval rouge. On n'y pense même plus. C'est très loin, très très loin. Du grain de cendre. Il n'y a plus. Il n'y a plus que les multitudes et les portes ouvertes. C'est beau, ça, c'est ce qu'on appelle la règle des cavaliers de l'Apocalypse, des chevaliers de l'Apocalypse. Chevaliers de Saint-Jean de l'Apocalypse, Saint-Jean de Jérusalem, la Jérusalem, Noël. Quand l'église se mue en Jérusalem dernière, alors il y a les cavaliers. Et il faudrait marquer comme ça. Règle numéro 1, le cheval de l'Apocalypse, le Verbe de Dieu. Deuxièmement, le manteau trempé dans le sang. Tabère. Troisième règle. Le nom sur son côté. Tabé Adonai. Agosté. Père de Dieu. Et la multitude. Et cette espèce de chevaucher intrépide. Et on ne voit pas, pour le coup, comme au début de l'Apocalypse, le glaive. Puisque le glaive, c'est précisément cette chevauchée, cette transverbération universelle dans tous les cavaliers de l'Apocalypse, qui emporte en transverbération, en un seul transpercement. Et dans l'Immaculée Conception de la Jérusalem. Victorieuse, intrépide et galopante, c'est des chevaux qui volent, quoi, quand tellement vite. Et c'est la cinquième règle de la croix glorieuse, c'est sûr, dans la croix glorieuse, hein, voilà, toutes les plaies de Jésus, toutes les 5480 plaies de Jésus, c'est... Ah, mon Dieu, toutes ces 36 années de Jésus, quoi. Qui sont été quand même des années de la passion de Jésus, et qui ont permis quand même au premier cheval blanc de l'Apocalypse de la grâce capitale de se traverser comme une étincelle tout le chaume de toutes les natures humaines pour que tout de même, tous ceux qui s'approchent de lui puissent voir comme réduit ensemble la paille et le plomb, quoi. Pour ceux qui s'approchent de lui, ceux qui sont mis dans un jour de fumier. Mais là, c'est différent, hein, certes. C'est, ce n'est plus quelque part là, le Christ qui habite en moi par et tout le mystère de la croix. Non, là, c'est la transubstantiation, c'est l'union hypostatique des surfaits qui, dans le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, pénètre les cieux en même temps que grande profondeur la paternité. Mais c'est cet espace-là qui fait la vie contemplative du cinquième saut de l'Apocalypse et la règle des chevaliers de Johannic, de la Jérusalem dernière. Voilà, mais oui, donc les multitudes, elles sont là-haut, vous savez. Et là, la fête de la Croix Glorieuse, le 14 septembre, c'est une fête que, depuis 3300 ans, est fêtée sur toute la Terre. Au sommet, j'allais dire, au terme, dans l'ultime du Hoshen Rabba, sur septembre. Je ne sais pas exactement cette année, si c'est pas aujourd'hui ou demain, je crois que c'est demain, c'est le 15, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais c'est toujours en septembre qu'il y a cette absolution qui va de la racine jusqu'à son terme. Bon, alors, un petit mot quand même sur l'Évangile, parce que Jésus dit à Nicodème, quoi, tu es un maître en Israël, tu ne sais pas ça. Rien qu'entendre ça déjà, c'est pas mal. Hein? Espèce de reproche de Dieu. De ne pas savoir les choses que nous devrions savoir quand même. Des choses très 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 grandes. Celui qui est descendu du ciel, celui qui est monté du ciel. Et c'est le Fils de l'homme, attention, je ne sais pas si vous remarquez, c'est le Fils de l'homme, il dit ça à Nicodème. Fils de l'homme va être élevé de terre, il attirera tout à lui. Le Fils de l'homme, c'est ça, l'homme qui pose ça, la chaîne à bas avec la lumière, c'est ça. Sans verser aux quatre coins de l'univers pour l'absolution du monde, c'est ça. C'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Messie. De la dernière seconde de tous les temps. C'est la fin du monde. La fin du monde, le Fils de l'homme, c'est Dieu qui vient. En personne, hypostatiquement. Voilà, ce rocher du ciel. Et il descend. Et c'est lui qui est crucifié. Ce qui montre bien, quoi, une chose. Regardez ça. Que, quoi, tu es maître en Israël, tu ignores ça. Le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme descend avec toutes les lignes du ciel. Pour les Juifs, si vous voulez, quand vous dites le Fils de Dieu dans la Bible, hein, ça désigne le Fils de Dieu dans la Bible, ça désigne pas Dieu, ça désigne l'humanité. Le Fils de Dieu, ben oui, Jésus le dit, vous le dites vous-même, dans vos midrash, dans vos catéchèses, vous le dites vous-même, dans vos psaumes, toute personne qui dit. Qui dit la Torah à Hachem, et celui qui a la grâce, il a la vie divine, enfin il a la grâce sanctifiante, donc il est Dieu, il est fils de Dieu. David ne dit-il pas, c'est tous des fils de Dieu. Les fils de Dieu, donc c'est quoi? C'est l'humanité qui reçoit la grâce, c'est ça, le fils de Dieu, le fils de Dieu. C'est l'humanité qui reçoit la grâce. Si c'est le fils de Dieu, c'est celui, l'humanité qui reçoit la grâce par excellence, quoi. Mais quand tu dis le fils de Dieu, ça ne désigne pas Dieu. Ça ne désigne pas Dieu du tout. Hein? Ça désigne donc l'homme, l'humain. D'accord? C'est ça. Tandis que quand on dit chez les Juifs, Quand on dit le Fils de l'homme, ça désigne Dieu, c'est le contraire. Pour un juif, à chaque fois que vous voyez le Fils de l'homme, ça veut dire Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est ça qui est important. De comprendre quand on entend ces... quand on entend les évangiles. Et il dit ça à Nicodème, le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Et c'est lui qui est élevé. Regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le mouvement que ça implique. Il dit, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Celui qui descend du ciel pour être crucifié, c'est Dieu. Dans la fin du monde, à chaque fois que Jésus vient pour être crucifié, il vient de la fin du monde. Et il descend tous les espaces qui nous séparent de la fin du monde jusqu'à maintenant. Et on voit bien que les eucharisties, les sacrifices eucharistiques sont de plus en plus brûlantes au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de moi. Et puis elles descendent, elles deviennent de plus en plus ténébreuses au fur et à mesure qu'elles s'approchent de la croix sanglante de Jésus. Ce qui montre bien que c'est le sacrifice eucharistique, on peut dire quelque part, précède dans l'ordre d'antériorité et de principe le sacrifice de Jésus au Golgotha. Le cortège, si vous préférez, qui accompagne et qui enfonce le Fils de l'homme dans le ciel, dans le Fils de Dieu crucifié. Il y a 2000 ans, c'est un cortège, vous voyez, qui vient comme ça, de cette manière-là, dans une chemin de croix descendant. C'est pour ça qu'il est lié à ça. Il est lié à... Il est très fortement lié au Père. Et c'est ce qu'il explique à Nicodème. Tu ne peux pas dire, voilà, je... On va dire... Il y a un ordre temporel, si on préfère, dans le sacrifice de la croix, et donc... Avant d'être sanglante, avant d'être purement ténébreuse, elle est avant d'être incréée, plus glorieuse. Et elle descend. Regardez, on passe comme ça. À chaque fois qu'on célèbre la messe, on le voit bien. Sinon, regardez bien. Sinon, réfléchissez un tout petit peu. Un jour, j'étais dans un ermitage, et puis je dis au père qui était là, depuis 10 ans, quoi, après, donc, bon, peut-être 7 ans, un peu moins. 7 ans, il était là depuis 7 ans. Cher père, là. Bon, je dis pas son nom parce qu'il est encore vivant. Et puis je dis, écoutez, mon cher père, je regarde votre manière admirable de célébrer le Saint-Sacrifice. Mais est-ce que je peux poser une question discrète? Parce que, petite question indiscrète. C'est très impertinent, je sais bien, mais tout de même. Alors, quand vous dites, quand vous prenez le pain... Le corps du Christ, là, enfin le pain et le vin, et que vous dites Jésus à la fin du repas, il prie, etc. Et puis il dit, dans le repas, il dit ceci est mon corps, puis c'est la coupe de mon sang. Mais quand vous dites ces paroles, quand Jésus dit ces paroles à travers vous, très bien, mon cher Père, faites-moi une confidence s'il vous plaît. Est-ce que vous n'êtes pas entièrement pris par le Christ qui est en train de dire ces paroles? C'est clair. Sinon, c'est plus la messe. Bon, donc, ça ne fait pas l'homme d'un doute, ça. C'est vrai, c'est beau, ça. C'est grand, c'est immense. Mais tout de même, vous, le Christ, ses paroles, à travers vous, il les prononce au moment... où il partage la scène avec ses apôtres. Prenez-les, mangez-en tous. mon corps. Et puis la coupe de bon sang, on la prenait. C'est au moment d'ailleurs où il le reconsacre à chaque fois, apôtre et prêtre, de l'ordre de Melchizedek. C'est comme ça que vous vivez ça. Je traite comme ça. Tous les sacrements. Ou bien, je ne sais pas, vous pensez, ce qui vous habite, c'est à ce moment-là, vous êtes en train de prendre le pain, prendre la coupe, ou bien vous pensez ceci. Vous vivez ceci, puisque l'évêque nous a dit, ce que vous dites, pensez-le. Ce que vous pensez, contemplez-le. Si vous contemplez, faites-le. Alors, vous contemplez quoi, là? Il est en train de faire quoi, le Christ, à travers vous, quand il dit ses paroles? Il est à la scène, il partage le pain. Il fait la transubstantiation pour le sacrement, quoi. Ou bien, vous êtes le Jésus-prêtre hein, et qui prend le pain, comme ça, c'est-à-dire se prend lui-même, se livre à la crucifixion, déchire son cœur eucharistique en mort et dit ceci, mon corps. Ou bien vous vivez ça, que Jésus est en train de prendre, et du coup la dernière goutte de sang qu'on danse, ça c'est la coupe de mon sang, il n'y a plus que Saint-Joseph, glorieux pour récupérer la coupe. Dans l'interface de la nature humaine offerte pour l'accueillir, du goutte de sang, du fond jusqu'au sommet. Ah, vous vivez quoi? Est-ce que c'est Jésus qui est en train d'être crucifié? Vous vivez pendant que vous prononcez les paroles que le Verbe de Dieu prononce, ou bien c'est le Christ au milieu des apôtres? Déjà vous que c'est Jésus qui, tandis qu'il prenait son repas avec eux. Alors, je dis, mon cher Père, je suis content de vous entendre dire ça, parce que comme je vous ai vu donner la communion sur la main, ça me soulage, parce que du coup, quand vous célébrez avec cette intention de célébrer la scène, et non pas l'immolation, votre messe est donc invalide de plein droit, donc vous pouvez donner la communion sur la main, il n'y a aucun problème. Ça me soulage beaucoup. Alors, Monseigneur Segui, quand je lui ai raconté ça, il me dit, vous lui avez vraiment dit ça? Alors, je dis, bien sûr, Monseigneur, c'est ça que je lui ai dit. Alors, il a fait... Tout bien. L'intention de l'Église, c'est Jésus qui descend jusque dans toutes les Eucharisties déjà célébrées, qui les prend et qui se fond dans sa mort. Et son sacrifice d'immolation dans leur réel, de son corps et de son sang, jusqu'à la déchirure et l'ouverture de son union hypostatique déchirée pour la dernière goutte de sang dans le calice, de la dernière noce de l'agneau. Et ça, il le fait sur la croix. Et bien, pour faire cela, il est obligé de venir comme prêtre éternel. Remarquez bien une chose, comme prêtre éternel. Et Jésus n'a été prêtre éternel. Si on prend le chemin de croix ascendant et non pas le chemin de croix divin du Fils de l'homme, mais sous ma croix ascendant, c'est-à-dire en fonction des temps qui se déploient comme ça, comme un tapis jusqu'à la fin du monde. Alors, si on prend dans cette œuvre ascendante, je me dis, je m'en crois, quoi. Classique. À ce moment-là, c'est sûr. Si c'est ça, Jésus s'approche, quoi. Et il célèbre la messe à la scène en intégrant comme ça, en mettant dans un seul instant le moment où il réalise son union hypostatique déchirée, permettant ainsi la transverbération. Je crois que ce n'est pas très difficile à saisir. C'est ce qu'il explique à Nicodème dans l'évangile de Jean. C'est le Fils de l'homme dans ce milieu du ciel. Et personne ne monte au ciel s'il n'est descendu du ciel. Hein. l'Eucharistie, c'est le Fils de l'homme qui descend jusqu'à nous, traversant tous les temps futurs jusqu'à l'instant présent, et traversant nous-mêmes, c'est-à-dire toutes les Eucharisties qui nous ont précédés pour s'engloutir par la crucifixion. C'est ce que nous expliquait le Père Emmanuel. Il nous disait, mais enfin, chaque fois que vous avez, nous avons la messe, nous avons évidemment, non pas moins que ce qu'avait la Vierge. Jean, Madeleine, au Golgotha. Nous n'avons sûrement pas moins, plutôt plus. Ce qui est évident, puisqu'il y a toutes les présences réelles de l'immolation effective de l'union hypostatique de Jésus, depuis la fin du monde jusqu'à là. Et que ça remonte ensuite jusqu'à nous. Et c'est ça, cette espèce de boomerang de grâce qui rebondit jusqu'à nous. Enrichi, quoi. Et l'offertoire, c'est quoi? L'offertoire, c'est l'offrande de tout ce mouvement antérieur de toutes les Eucharisties jusqu'à maintenant. Quand on offre l'Eucharistie, à l'offertoire, on s'offre soi-même. Mais on s'engloutit dans toutes les Eucharisties déjà célébrées, ainsi d'ailleurs que celles qui auraient dû être célébrées et qui n'ont pas été célébrées. Hein. Bien sûr, on s'offre là un offertoire pour que la messe redise une nouvelle fois cette mission invisible du Père, du Fils unique de Dieu, dans le Fils de l'homme venant sur les nuages, entièrement glorieux, entièrement glorieux, entièrement glorieux. Et dans s'engloutir, j'allais dire, dans la foi immaculée de mystère de compassion de Marie pour être attaché, élevé. Et redescendre dans le fond, si je puis dire. Et ça, c'est ça qu'il dit Jésus à Nicodème. C'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. C'est pas un petit détail. Hein. C'est pas un petit détail. Vraiment pas. De même que le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Voilà pour le Fils de l'homme. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà pour le Fils de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, et qu'il ne soit plus dans la perdition, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Non pas pour juger le monde, voilà encore pour le Fils de Dieu. Récapitulons, le Fils de l'homme est la mission invisible du Verbe de Dieu dans la créée du Père. Et c'est ce mystère de la croix glorieuse qu'on fête chaque année. Chaque année, vous savez, c'est les premiers chrétiens fêtaient la Pâque, fêtaient la Nativité, Noël. Et puis, dès que Sainte Hélène a découvert le bois de la croix à Jérusalem, qu'on l'a sorti, on a construit le Saint-Sépulcre, à partir de ce moment, vous le savez, ça y est, le feu incréé est sorti du tombeau chaque année, de cette année-là. Environ 19h avant l'heure de la résurrection. C'est samedi à midi. Chaque année. C'est comme ça. Et c'est encore cette année comme ça. Moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu ça. Et c'était un truc atroce que je l'ai vu moi. Mais bon, quelque chose comme ça. Et peu importe. C'est qu'à partir de ce moment-là, les trois grandes fêtes chrétiennes, les trois grandes solennités, les trois grandes fêtes d'obligation, les trois grandes fêtes. C'était Pâques, Noël et la croix glorieuse. C'était les trois grandes fêtes chrétiennes. C'est les trois seules fêtes chrétiennes de l'année. La croix glorieuse. Aujourd'hui, le 14 septembre, la croix glorieuse est un peu perdue, quoi. Mais c'est dommage parce que. C'est dommage. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de c'est quand même quelque chose de vertigineux de comprendre, de voir, d'entendre que dans Jérusalem, le feu créé établit, si je puis dire, la fondation. Et je me demande que si c'est pas un petit peu l'intention de la messe d'aujourd'hui de dire après tout quand même, si c'est la dernière fête de la croix glorieuse, avant la prochaine Pâque unanime, est-ce que c'est pas celle peut-être aussi qui doit emporter le morceau dans les cieux? Est-ce qu'on ne peut pas célébrer la messe, j'allais dire, dans le mystère de la croix glorieuse, des prières absolument parfaites, des infaillibles de Jésus, fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme, il a dit, je suis le comme elle. Voici la croix glorieuse. Et l'Église elle-même, dans sa liturgie, quand vous ouvrez le missel qui est là, et vous avez l'introduction de la fête liturgique de la croix glorieuse. Nous fêtons dans la croix glorieuse le signe du Fils de l'homme qui doit s'épanouir, et c'est par lequel le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Entendre la parosie, c'est ça, on fait ça. Il faut apprendre à recevoir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, traversant les noces de l'agneau. Le sixième saut de l'Apocalypse. Et toutes les résurrections, le dernier saut de la Jérusalem, jusqu'à nous aujourd'hui. Et avoir besoin de nous pour aller jusqu'au fond du Golgotha. C'est ça qui est demandé au prêtre, dis mon cher Père Dominique. C'est pas ça qui est demandé au prêtre quand même. Et c'est qu'une fois qu'on en est là, c'est à nous, dans le sacerdoce, de descendre jusqu'au fond du Golgotha. Et de permettre au Christ de dire et de vivre cette crucifixion réelle. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est mort une seule fois et une fois pour toutes. Et plutôt c'est vrai. Il est mort une fois pour toutes. Et si tu ne vis pas, si tu n'entends pas, si tu ne contemples pas, si tu n'incarnes pas, si tu ne... N'incorpore pas si tu n'es pas... Attends, je m'excuse, mais Jésus sur la croix, quand il est mort, il ne peut plus rien faire. Donc, il a besoin d'humanité de substitution dans la présence réelle de sa venue comme fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il ne faut quand même pas l'oublier, donc je le disais tout de suite, là, c'est pour ça que je reprends. Quand Jésus a été ressuscité, après il est monté au ciel, c'est seulement à ce moment-là, quand il est passé au-delà du voile de l'ascension à la droite du Père, c'est seulement à ce moment-là qu'il a été revêtu du sacerdoce. Jésus n'était pas revêtu du sacerdoce au moment de son incarnation, au moment de sa crucifixion, au moment de sa résurrection. Mais quand il est rentré à la droite du Père, au-delà du voile, il a été établi prêtre selon l'ordre de Melchisédek, prêtre et victime. Donc c'est dans l'éternité. Et c'est de cette éternité qu'il vient. Et il y a une. Cette déchirure s'est établie, si je puis dire, glorieusement, et dans l'ascension, jusque dans le sein à droite du Père. Et c'est pour ça que ce sont ces deux déchirures qui permettent la venue du Fils de Dieu. Et c'est bien Dieu, à ce moment-là, de cette double déchirure, indivisiblement présente en lui, qui descend jusque le haut, pour réaliser cette crucifixion. Sinon, comment voulez-vous obtenir que Jésus puisse mourir? Est-ce que c'est possible pour Dieu de mourir? Est-ce que c'est possible d'opérer la division substantielle de l'incréé et de créer dans une union hypostatique qui est plus forte comme unité et plus indivisible que le mystère de la très sainte Trinité lui-même dans l'unité, comme l'explique saint Augustin? Comment est-ce que vous pouvez expliquer une chose pareille? l'homme. Là, quand c'est le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, c'est Jésus, prêtre éternel. Hein. Parce que c'est d'au-delà de l'ascension. Hein. Et donc c'est dans l'éternité qui se prépare. Voilà, c'est extraordinaire de savoir que le sacerdoce victimal du Christ anticipe, j'allais dire, la fin du monde. Enfin, l'anticipe de l'autre côté de l'éternité. Il est envoyé par le Père, c'est une mission invisible du sacerdoce éternel. Descend jusqu'à nous, et nous les prêtres, sacerdoce royal, c'est pareil, on est là pour faire le lien et pour le faire descendre jusque dans la présence réelle et transsubstantielle de, et qu'il soit livré devant nos yeux à la croix, baptisé mon corps, ceci la coupe de mon sang. À ce moment-là, on participe au sacerdoce éternel, victimal, de Jésus, du Verbe de Dieu et du Fils de l'homme. Vous comprenez bien que les chevaliers, là, les cavaliers de l'Apocalypse, ils ne vont pas vers comme ça vers la fin du monde. Ils descendent de la Jérusalem glorieuse de la fin, avec le Fils de l'homme venant sur les nuées, sur le cheval blanc, revêtu d'un manteau, trempé au sang. Avec le nom du Fils de l'homme, c'est la transverbalation. C'est pas le Christ qui vit en moi, c'est le Verbe de Dieu qui réalise sa mission invisible envoyée par le Père. Et c'est pour ça que c'est à ceux qui vivent cette mission invisible du Verbe de Dieu envoyé par le Père. C'est ceux-là qui ont autorité et qui peuvent, dans la nature humaine tout entière, hein, transpercement de la nature humaine, de l'Immaculée Conception, de la nature humaine tout entière. Et c'est ça, la chevalerie de Jérusalem. La chevalerie de l'Apocalypse. C'est très mystique, c'est très mystique. Vous ne savez pas dire que c'est ésotérique. C'est très mystique en ce sens que c'est très incarné, c'est très charnel, là. Physique, hein, c'est très concret, c'est très fort, c'est très courageux. Là, du coup, tout se remonte comme ça, d'un seul coup à la communion. Et l'Immaculée peut prendre, j'allais dire, tous nos actes, vie sacerdotale, chrétienne et royale. Elle les prend, elle les emporte. Avec la création, c'est-à-dire dans l'indivisibilité de Dieu, pour réaliser le sacrifice, c'est-à-dire le don sans limite, infiniment grand. Parce que nous, quand nous le faisons, c'est infiniment petit. Et il réalise ainsi la communion de tous les fruits des sacrements. Dans l'infiniment grand, la communion, ouais, se donne de manière adaptée, en affinité à chacun. Continuellement, à chaque instant, à chaque moment, continuellement et aussi éternellement. Ce rebondissement comme ça. Ce reflux qui fait, si je puis dire, qui fait la vie contemplative du corps spirituel venu d'en haut, qui nous permet de rentrer de la Jérusalem spirituelle ardente à la Jérusalem glorieuse descendante. Dans le baiser de véritable amour, ce flux. C'est l'interface au fond de la coupe. Dans la coupe, il y a 1600 stades. C'est la purification de tout ce qui peut être purifié. 40, à la puissance de la transverbération. 40, c'est ça. Ça fait 1600. Et cette coupe, c'est on se plonge dedans. On est englouti dedans. Et comme ça, on peut recevoir l'acte sacerdotal de la messe suivante. Mais c'est vraiment dans la croix glorieuse, parce que c'est du fond, quoi. Du fond de la lumière de gloire. Du fond de la lumière de gloire, dans l'unique âme, dans l'individu des deux déchirures du Père et du Fils. que ça s'opère. C'est là qu'on voit que Saint-Joseph, sans Saint-Joseph, c'est impossible, il ne peut pas y avoir la messe. Vous avez tout compris? C'est sûr. Quoi, vous êtes maître en Israël, vous ne savez pas ça? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Attends, je m'excuse, bien sûr, que quand Jésus descend de la croix dans son âme qui est déchirée, à cause de l'Eucharistie, attention, hein, dans l'Immaculée, la transversale de Marie, universelle, de la Jérusalem glorieuse, l'acte du Saint-Esprit qui actue le mystère de compassion de Marie, dans notre messe sacramentelle, ça, ça peut réaliser la fameuse séparation, la mort séparant de la croix. Et alors l'âme, ouais, de Jésus descend, à l'instant où Jésus meurt, dans la seconde, où il se s'arrache au corps catholique, crucifié, cloué et élevé, fondu par le feu. Son âme, aussitôt déchirée de cette manière, rejoint et s'engloutit, disparaît dans l'âme. Substantiellement déchiré de la même déchirure de Saint-Joseph, qui est dans les âmes, depuis 1290 jours déjà. Et Dieu le Père et Dieu le Fils se rejoignent dans l'instant même, dans l'individu, ces deux déchirures du Père et du Fils. C'est là qu'on voit que la transgression originelle et la transgression finale sont un, là, celle du Père et celle du Fils. Et du coup, les deux peuvent se rejoindre dans une unique. Et du coup, la lumière de gloire allume à l'intérieur de toutes les dispositions intérieures, compréhensives, extensives et intensives de l'unique oblation dans le fond des enfers. Et c'est ce moment-là que cette croix, cette âme déchirée, crucifiée de Jésus, devient glorieuse. Elle est glorieuse, pourquoi? Parce qu'elle est immédiatement spirée, expirante. Conspirante, respirante, expirante, respiration incréée passive, dans l'au-delà de la lumière de gloire. Et donc l'âme du Christ déchirée, alors qu'il n'est toujours pas ressuscité, et l'âme de son fils, de son père, Saint-Joseph, les deux, elles ne sont qu'une seule lumière de gloire. Et ils sont comme, pour ainsi dire, assumés, quoi, là-haut, dans le fils de l'homme venant sous les nuées du ciel, pour aller vers Marie au pied de la croix, comme le nouvel ange Gabriel, par une voix qui est assurément directe à l'intérieur d'elle, comme vase communicant dans la coupe de bénédiction, la couche buracute où elle s'est engloutie jusqu'à la fin du monde, pour entendre d'une manière sponsale précisément ce qu'elle a à faire avec, dans son fiat éternel. L'Église doit célébrer la messe. Et vous voyez bien que il faut aussi bien que ce soit Dieu le Père et Dieu le Fils d'avant la création du monde et aussi d'après la glorification universelle de la Jérusalem glorieuse. Aussi bien que Dieu le Père et Dieu le Fils dans le fond de la croix glorieuse de l'âme des cieux de Jésus. Trois en un, l'homme trois, qui sont l'ange Gabriel, la force qui s'adresse de manière immédiate, quoi, à l'Immaculée, quoi, transverbérée. Elle doit dire oui. Mais comment toi ça, puisque c'est parvenu, c'est Saint-Esprit, va supervenir du dedans de toi si tu dis oui. Si tu dis oui, tu dis oui, fier, éternel, dans la volonté incréée éternelle de Dieu, dans cette venue fils de l'homme, cette nouvelle annonciation, alors à ce moment-là, tu es pris au bon bré dans l'ombre, tu es au bon bré par le Père, et il envoie en toi. Et il envoie du dedans de toi dans toutes les eucharisties récapitulées à l'intérieur de toi, dans toutes les immolations récapitulées à l'intérieur de toi. L'Assomption, le Verbe de Dieu va pouvoir s'engloutir dans ton sein pour que de manière sponsale vous engendriez avec Saint-Joseph le corps de la résurrection de la Sainte Famille. Et c'est ainsi qu'elle est. C'est là le feu qui sort du tombeau à Jérusalem. Le feu immaculé. Et ce feu d'abord 19 heures avant la résurrection de la chair. Mais il se passe, c'est 19 heures, c'est-à-dire le temps, la durée. Hein. C'est extraordinaire quand même cette durée de 19 heures. 19 jours, si vous voulez. Et c'est le même point, voilà. Et c'est pour ça que c'est quand même quelque chose de très impressionnant de voir que Marie est la mère de la résurrection de la chair de son époux et de Jésus au même instant. Le tombeau du juste s'ouvrit. Un tremblement de terre se fit. Méga séismos, méga séismos. Ça, c'est la croix glorieuse, ça. Derrière la croix sanglante, il y a la croix glorieuse. Devant la croix sanglante, il y a la croix glorieuse. Et le glaive du cavalier de l'Apocalypse. Il y a l'air qu'il traverse avec ses multitudes. C'est la croix rédemptrice, la médiatrice. La chevalerie immaculée du ciel et de la terre. C'est elle. C'est pour ça, mon cher Père, je vous en supplie. Aidez-moi. Expliquez-moi comment vous faites. Au moment où vous célébrez les paroles, supplie. Céleste divine, créez. Expliquez-moi. Ce que vous y vivez dans l'acte, que vous y opérez. N'est-ce pas dans cette intention de l'Église que vous le faites? Expliquez-moi, je vous en supplie, donnez-moi une réponse. Parce que je veux savoir si j'y suis assumé ainsi à votre messe dans l'admirable opération de l'Apocalypse. De la victoire sur l'Antéchrist, depuis le principe de la création jusqu'à la fin. Ou si ce n'est qu'une simple préparation. C'est peut-être ça, le petit message qui va être donné au prêtre au jour d'avertissement, pendant 30 minutes. Hein. Ce sera peut-être ça, hein. Je vous en supplie. Je vous en supplie, cher Père. Vous ne pouvez pas nous dire si c'est possible de le faire, puisque c'est vous qui avez autorité. Et pouvoir sacerdotal pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire, s'il vous plaît, pour nous. Et ça, l'avantage de l'avertissement, c'est que les choses sont en pleine lumière et on voit comment il faut faire, jusqu'où il faut aller pour le faire et de quelle manière il faut le faire. Mais l'Église nous l'a déjà enseigné, mais on était un peu paresseux. C'est pour savoir quelle était l'intention de l'Église dans cette parole prononcée du Verbe de Dieu, d'assurer dans l'union hypostatique. Il ne peut plus parler puisqu'il est mort. Alors, c'est nous, c'est le prêtre Jésus, prêtre éternel, venant sur l'île du ciel, qui vient pour le dire et pour pouvoir descendre jusqu'à l'heure de la crucifixion. Sinon, il n'aurait jamais pu être crucifié. S'il n'y avait pas eu Saint Jean, Jésus n'aurait jamais pu être crucifié. Jamais. Impossible. Parce que cette séparation n'aurait pas été possible. De l'âme et du corps dans l'union hypostatique de Jésus. Vous comprenez ça? Et bien ça, c'est la fête de la croix glorieuse. Vous me direz, j'ai rien compris à ce qu'il a dit le Père. Parce que j'ai tellement de fourbis dans mon cerveau. Entre deux phrases, j'en avais une troisième dans la mienne qui n'avait rien à voir. Donc je perds le fil. Alors, et puis je dors. Thank you. pauvre humanité, mais sans misère. J'ai rien compris ce qu'elle a dit. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Vous écouterez la cassette. Vous prendrez un stylo, un papier. C'est vrai. Ça s'inscrit à l'intérieur de notre cœur, ça. Parce qu'une fois qu'on l'a compris une fois, on n'oublie plus jamais. Hein. Une fois qu'on l'a compris une fois, on ne peut plus jamais. C'est fini, on ne peut plus. On peut plus prendre en arrière, sinon on va mettre. Voilà, vraiment, ouais, pas possible, quoi. On a un rôle à jouer. Dieu n'a pas voulu jouer ce rôle seul. Il a voulu dans l'amour, donc il fallait qu'il y ait une unité totale, substantielle, transverbérante et transglorifiante pour réaliser cette œuvre. Il fallait que ce soit une œuvre d'amour. Il l'aurait réalisé tout seul. Par sa toute puissance, on est dans le crucifix, on n'en parle plus. Ce ne serait pas une œuvre d'amour. Il fallait, pour ça que saint Thomas dit, la grâce est sainte, la grâce chrétienne, c'est une grâce coopérante. Substantiellement coopérante. Et oui, bien sûr, Jésus ne peut pas offrir, il est mort. Alors Marie peut offrir la dernière goutte d'eau et de sang. Elle peut offrir l'union hypostatique déchirée. Jésus ne peut pas le faire. Dieu le Père ne peut pas le faire. Et Saint-Esprit ne peut pas le faire non plus. Donc, là, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment il y a des gens qui disent, mais non, Marie n'est pas co-rédemptrice maintenant. C'est qui offre l'union hypostatique déchirée de Jésus au Père? C'est qui? C'est Saint-Pierre, là, qui est en train de faire avec le coq. Il pleure. Alors quoi, c'est qui? C'est Judas, là, qui est en train de dire ses derniers soubresauts. C'est qui offre? C'est qui offre l'union hypostatique d'Esprit à Jésus dans la mission invisible, quoi? Enfin, je veux dire, du Fils de l'homme venant sur les... C'est ça qu'il explique Jésus à Nicodème. De mettre en Israël, tu sais pas ça? Ouais, Paul. Bien sûr, comment les gens peuvent dire que Marie n'est pas co-rédemptrice? C'est impensable, je veux dire, c'est impensable que quelqu'un qui je sais pas, a une intelligence un peu plus élevée que celui du moineau, quoi, et de la taupe. Ils comprennent pas une chose aussi évidente, enfin. Est-ce que... Il est mort. Il est dans la lumière de gloire, dans son âme. Donc c'est dans la lumière de gloire. Comment est-ce qu'il peut offrir? Et de côté, de l'autre côté, il est mort. Alors, oui, c'est vrai. C'est lui qui... Dans la mission invisible du Verbe de Dieu, transverbérant l'Église toute entière, célèbre la messe et co-rédempteur à travers nous. Et l'unique qui a été co-rédemptrice au nom de la Sainte Église, c'était l'Immaculée. Il n'y avait pas 3, 4, 5, 6, 7, et une, c'est tout. C'est Saint Jean qui dit, lui, la foi, ah, la messe, c'était après. C'est quand il a vu le suaire. Elle était seule. Je ne comprends pas. C'est pas protestant, vous comprenez. Donc... Le père Congard, dominicain, père de l'Église dans le Concile. Là. Oui, ça fait partie de ces choses qui ont été maladroites. Qu'il faut apprendre à relativiser comme étant purement symbolique. Et même le père Barito, qui nous disait, c'est simple, comment peut-on ne pas voir ça? Qui est-ce qui offre le corps doué de sang? Et moi je disais au père Barito, oui, mais comment elle fait? Ah oui, ça c'est un mystère. Je dis, c'est pas la responsabilité. C'est symbolique, ça. Ben, vous dites comme le père Congar. Père Marido, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, c'est pas la peine. Il nous casse les pieds. Sortez les bancs. Non, rentrez-les. Bon, alors voilà. Donc, tout ça, la fête de la Croix Glorieuse, c'est pour ça. La fête de la Croix Glorieuse. Eh bien, écoutez, l'intention de la messe est facile à comprendre. On demande pardon pour et de manière à obtenir la dernière condition. La dernière condition. La dernière des dernières. La mort et la résurrection du Christ doivent être offerts par la Jérusalem spirituelle tout entière et indivisiblement. C'est peut-être donc la dernière solennité de la Croix Glorieuse, du temps de l'ascension ascendante, je veux dire, du chemin de croix, avant l'ouverture des temps. Donc, elle ne devrait pas, ce million de messes d'aujourd'hui, là, emporter le morceau, quoi, dans le ciel, l'arracher. Obligé, si je puis dire, obligé, ah oui, obligé, parce que Dieu est obéissant. Nous, on n'est pas très obéissant, mais Dieu est très obéissant. On dit ceci, mon corps, il y a tout de suite, hop, et puis crucifié carrément. Et mettre le Verbe de Dieu, je veux dire, pas le Verbe de Dieu, le Fils de l'homme, dans son initiation jusqu'à nous. Et le faire descendre dans cette crucifixion, substantiellement incarnée, pour la vivre, pour arracher, quoi, cet démon, tout. Et anéantir tous les obstacles qui rendent encore impossible, si je peux dire, l'ouverture des derniers temps, quoi, puisque pour arracher, quoi, cette... Et voilà, ça c'est extraordinaire, hein. Ça c'est l'intuition du pape Benoît XVI, hein. Pas l'intuition, il a une révélation, sûrement. C'est ça qu'on doit obtenir. Et du coup, eh ben, c'est vraiment au dernier moment, quoi. Au dernier moment. Il décide de ne pas déchirer la tunique sans couture. Et il la jette au sort. Pour qu'elle ne soit pas déchirée. Obtenir ça, quoi. Pour la véritable tunique sans couture. C'est forcément par un miracle venu d'en haut, hein, c'est évident, je mets des rebondir, et hop. Et comme ça, que ce soit vrai, quoi, que ce soit vrai, que ce soit réel, et que ça devienne historique, c'est encore mieux. Pas tout. Et les gens disent que ce soit ça. Personnellement, il me semble que le bon Dieu veut, surtout, c'est parce que c'est pas parce que j'ai envie. Ah, c'est vraiment incroyable cette histoire de Croix-Glorieuse. Lumière de toi, puis dans la résurrection. Les deux âmes du Père et du Fils, dans l'unité du Père et du Fils pour la production de l'aspiration passive, un cri du Saint-Esprit dans la transverbation de Marie. Voilà l'annonciation nouvelle. C'est superbe du Saint-Esprit en elle. Dans sa transverbération déjà largement ouverte, dans dimension, déjà depuis longtemps. Mais là, cette fois-ci, c'est le Saint divin fiat de Marie dans la volonté éternelle de Dieu qui s'opère et qui fait jaillir au fond, hein, si je puis dire, toutes les grâces de la parosie et de toutes les fécondités du corps spirituel venu dans le temps de la Jérusalem glorieuse et de leur accomplissement au-delà d'elle-même jusqu'à nous, quoi. Voilà le fruit de la communion. Et cette unique corps spirituel venu d'en haut est semblable, identique, unanime, indivisible chez les orthodoxes, les catholiques, chez Saint-Jacques, Saint-Jean et Saint-Pierre, dans l'unique transfiguration des livres. Et des hiérarchies angéliques, dans la dixième hiérarchie, enfin bref, dans toute la matière palpitante, toutes les possibilités d'amour de la création du monde. de création nouvelle, d'inspiration, d'incréer, c'est créé. De Dieu. Il est grand, mais c'est de la croix glorieuse. Il est très grand. C'est de la croix glorieuse. Il est très, très beau. Et vous mettez Noël, c'est une grande fête. Vous mettez Pâques, c'est une grande fête. Mais l'Apocalypse a indiqué que la fête de la croix glorieuse, la vie de Dieu, leur est supérieure. Puisque les quatre vivants se prosternent devant l'agneau. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Et les 24 vieillards, 888, se prosternent devant l'agneau. Voilà le mystère de toutes les grâces de la résurrection. La Pâque et je veux dire, là, incarnation, Noël, ne sont pas grand-chose au mystère de la croix glorieuse. Et l'Église ne s'est pas trompée quand elle a mis la croix glorieuse parmi les trois grandes solennités du christianisme. Moi, personnellement, je suis fier de moi parce que j'ai été ordonné pour la fête. Ah, moi, ça me plaît, moi, ça. J'ai été enfourné, englouti dans le chevalier de l'Apocalypse. Je vois de la croix glorieuse. Oh, là, là, ça, c'est beau, ça. Mais encore faut-il le voir. Vous voyez, je ne sais pas comment dire. C'est pour ça que je parle beaucoup. C'est parce qu'à force de le dire, à force de l'exprimer, à force de l'entendre, tiens, une voix est en train de... Un chemin est en train de... Une ligne pure est en train de se tresser devant moi. Et j'y pénètre pour y faire épanouir la liberté de la croix glorieuse dans l'instant vivant, la lumière vivante de l'instant présent, de mon oraison surnaturelle. Dès que ce sera la cinquième ou sixième demeure, devant l'épanouissement de tous les temps, tous les lieux, moi, comme instrument, comme ça, je sais glorifier sa spontanéité disponible. Pour la moisson et la vendange des multitudes. Alors, l'interface de la coupe, la transverbération, quoi, 1600 stades, pourra se remplir du sang qui coule venant du sacerdoce éternel, glorifié du Christ, dans les noces de l'agneau. Il faut le voir, ça. Tu le vois?
Oui, mais bien sûr.
C'est bizarre. En tout cas, même si on n'a rien compris, pas un mot,
ça
fait rien. Je l'entends, je le reçois, et je dis qu'il en soit ainsi. Et cela se fera. Et tout le mal qui s'approchera de moi, qui va contre cela, disparaît de cette terre. C'est le monde nouveau, le monde ancien a disparu.
Alléluia. Amen. Amen.